Merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
Bonjour à tous, c'est RFI Midi qui commence 2h30 ensemble avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, les discussions tant attendues entre Ukrainiens et Russes. Mais sans Vladimir Poutine, sans Volodymyr Zelensky et sans Donald Trump, les Européens et l'OTAN regrettent l'absence du président russe. Le Kremlin préfère souligner l'importance d'une rencontre entre les dirigeants russes et américains, sans faire mention du président ukrainien qui lui réclame toujours un cessez-le-feu. Tout comme la Turquie, pays qui accueille les discussions. Et puis le secrétaire d'État américain, lui, demande que le massacre cesse avant des pourparlers. À la une également, un candidat favori de la présidentielle qui ne fait pas campagne dans son pays pour la dernière ligne droite, mais auprès de la diaspora. Le populiste George Simion préfère parler aux Roumains de l'étranger. On essaiera de comprendre pourquoi avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Dimanche, on votera aussi pour le premier tour de la présidentielle en Pologne. Présentation des deux favoris dans une demi-heure et reportage auprès du troisième homme, le candidat d'extrême droite Sławomir Mentzen, qui séduit particulièrement les jeunes.
Je ne soutiens pas tous les points du programme de Mentzen. Par exemple, le fait qu'il veuille rendre les études payantes. Mais je veux aussi qu'il y ait d'autres alternatives qu'un gouvernement PO ou PiS et que quelqu'un de nouveau puisse entrer dans la course.
Reportage de notre correspondant en Pologne à écouter à midi 25 temps universel.
RFI Midi.
Juste après l'actualité africaine, nous irons à Kinshasa où les sénateurs se penchent aujourd'hui sur une levée éventuelle de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Et puis au Tchad, après l'arrestation ce matin à l'aube du principal opposant Succès Masra. On en reparle aussi dans le journal dans un instant. Et puis nous évoquerons des fouilles en cours au Chili pour tenter de retrouver des disparus de la dictature. Rendez-vous à partir de 13h, temps universel. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et tout de suite donc le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec pour commencer cette arrestation au Tchad.
Oui, le principal leader de l'opposition a été arrêté ce matin à son domicile de N'Djamena par des hommes en uniforme. Avec nous en studio François Mazet, bonjour.
Bonjour à tous.
Le procureur de la République François vient de s'exprimer. Le président du parti Les Transformateurs est poursuivi suite à des affrontements meurtriers survenus mercredi dans le sud du pays.
Oui, selon le procureur Oumar Kedela, la procédure suit son cours mais Succès Masra serait impliqué dans des appels à la haine et à la violence, notamment à travers des messages diffusés sur les réseaux sociaux en lien avec cette attaque survenue mercredi au village de Mandakao au cours de laquelle 42 personnes sont mortes selon les autorités. Une attaque aux causes troubles mais probablement liée au conflit intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs récurrent dans cette région. C'est en tout cas sur cette base, dit le procureur, qu'il a émis un mandat d'amener exécuté à l'aube par la police judiciaire. Une quinzaine d'hommes en uniforme se sont présentés au domicile de Succès Masra dans le quartier Gassi du 7e arrondissement de la capitale. Ils l'ont emmené, comme le montre une vidéo de surveillance de la cour diffusée par le parti. L'ex-premier ministre se trouve à la coordination de la police judiciaire. Il est poursuivi pour incitation à la haine et à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture. Dans le même temps, le parti Les Transformateurs a dénoncé un enlèvement et estimé qu'aucune procédure n'avait été respectée. Le parti exige la libération immédiate et sans condition de son président.
François Mazet, merci. Toujours en Afrique cette fois. En bref, l'ONU demande au Mali d'abroger le décret dissolvant les partis politiques. Par la voix du haut commissaire aux droits de l'homme, elle l'appelle aussi à rétablir pleinement les droits politiques dans le pays. C'est à Luanda, capitale de l'Angola, que se trouve maintenant Ali Bongo, l'ancien président du Gabon. L'ancien président déchu ainsi que sa famille ont été libérés et sont arrivés maintenant à Luanda, annonce de la présidence angolaise sur les réseaux sociaux.
Depuis les premières semaines de la guerre en Ukraine, alors que le conflit continue sur le terrain, russes et ukrainiens se reparlent.
Oui, ils se reparlent. Certes, les attentes sont faibles à Istanbul, compte tenu notamment de l'absence de Vladimir Poutine. La délégation russe est considérée comme une délégation de second rang. Poutine a fait une erreur, considère le chef de l'OTAN, alors que le chef de la diplomatie française lui reproche au président russe de pratiquer la politique de la chaise vide. Toujours est-il que délégations russes et ukrainiennes ont entamé leur discussion à Istanbul sous médiation turque. Parmi les premières demandes faites, l'Ukraine veut négocier une future rencontre directe entre le président Zelensky et son homologue russe. De son côté, la Turquie réclame un cessez-le-feu dès que possible.
À deux jours de la présidentielle en Roumanie, l'écart se resserre dans les sondages entre les deux candidats.
D'une part, George Simion, représentant l'extrême droite, arrivé largement tête au premier tour. D'autre part, Nico Jordan, candidat indépendant, pro-européen. À deux jours du vote des Roumains, le premier a fait une sortie fracassante. Il s'est invité sur le plateau de la chaîne française conservatrice CNews pour attaquer le chef de l'État français. Muriel Paradon, bonjour. Vous êtes en direct des studios de RFI Romania à Bucarest.
Bonjour.
George Simion a qualifié Emmanuel Macron de dictateur.
Oui, il faut savoir que George Simion, c'était un ancien hooligan reconverti dans la politique qui souhaite, s'il est élu président dimanche en Roumanie, s'inspirer de Donald Trump. Et voici ce qu'il a dit précisément d'Emmanuel Macron devant les journalistes médusés de la chaîne française CNews hier soir.
J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatorielles d'Emmanuel Macron.
Voilà, George Simion accuse en fait la France d'être intervenue pour faire annuler les élections présidentielles en Roumanie de novembre dernier, où un autre candidat d'extrême droite était arrivé en tête. Annulation parce que soupçon d'ingérence russe dans la campagne électorale sur les réseaux sociaux. Alors George Simion n'en est pas à son premier coup d'éclat, mais on est à deux jours de cette nouvelle présidentielle donc en Roumanie. Son adversaire, Nicu Jordan, qui est à l'opposé de lui, un homme posé, pro-européen, a réagi en publiant un message vidéo.
Je veux dire que les déclarations de ce soir de M. Simion ne sont pas en accord avec ce que pensent les Roumains. Et si je serais le président de la Roumanie, au nom du peuple roumain, je présente excuses pour ces opinions.
Voilà, l'extrémiste George Simion face au pro-européen Nicu Jordan qu'on vient d'entendre. C'est l'affiche du deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche en Roumanie. Dans les derniers sondages, les deux hommes sont désormais au coude à coude.
Merci pour toutes ces précisions, Muriel. C'était Muriel Paradon en direct de Bucarest. Donald Trump achève aux Émirats Arabes Unis sa tournée dans le Golfe Persique. Son premier déplacement international majeur depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Sur le plan des affaires, la moisson est riche. Le président américain s'est vu promettre à Abu Dhabi, quelques 1400 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Les accords signés culminent à des niveaux records dans l'aéronautique et les hydrocarbures en particulier.
Et puis un accord sur le nucléaire iranien serait à portée de main.
Oui, de nouvelles discussions se tiennent aujourd'hui entre d'une part l'Iran, d'autre part l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Donald Trump affirme de son côté que Washington et Téhéran sont sur le point de trouver un terrain d'entente, ce qui serait une première depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en 2018, Marine de la Moissonnière.
En échange de la levée immédiate des sanctions américaines qui étranglent son économie, Téhéran consentirait à des concessions sans précédent. C'est ce qu'a affirmé un conseiller du guide suprême Ali Khamenei mercredi à la chaîne américaine NBC News. L'Iran s'engagerait à ne jamais fabriquer d'armes nucléaires, renoncerait au moins à une partie de son stock d'uranium hautement enrichi dont il se débarrasserait. Mais le pays conserverait ses centrifugeuses et continuerait à enrichir de l'uranium au niveau nécessaire à un usage civil, un processus supervisé par des inspecteurs internationaux. S'il est signé, cet accord entre l'Iran et les États-Unis représenterait une avancée diplomatique majeure dans cette région du monde. Ce serait également un succès pour Donald Trump qui viendrait couronner sa tournée dans le Golfe. Sa stratégie de pression maximale sur Téhéran, tout en maintenant ouvert les canaux diplomatiques, se révélerait donc payante. Ce jeudi, Donald Trump a salué le rôle de l'émir du Qatar dans ce dossier. L'Iran peut lui dire un grand merci, a estimé le président américain, car il l'a exhorté à ne pas faire usage de la force.
Les navires gros porte-conteneurs vont-ils revenir dans le canal de Suez?
Oui, la question est posée. L'Égypte ayant décidé cette semaine de baisser de 15% ses tarifs pour les gros navires qui passent par cette voie reliant l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Un an et demi après les premières attaques des rebelles yéménites, les bateaux sont toujours obligés de faire un immense détour par le cap de Bonne-Espérance. Résultat, une chute de 60% de l'activité du canal de Suez et un manque à gagner pour le Caire de quelque 7 milliards de dollars. Mais pour Jérôme de Ricles, expert du transport maritime, cela ne suffira sans doute pas.
Le problème, c'est que aujourd'hui, la sécurité n'est toujours pas garantie, même si, effectivement, les attaques ont drastiquement baissé depuis le mois de janvier. Les outils dans plusieurs canaux de presse ont démenti qu'ils mettaient fin à toutes leurs activités. Il y a un juge de paix incontournable, c'est la question assurantielle. Et pour le moment, les assurances risques de guerre restent très élevées, donc une baisse de 15% du coût du canal, une offre promotionnelle à saisir, n'est pas suffisante. suffisante pour pouvoir, à ce stade, faire rebasculer le marché par le Bab el-Mandab et par Suez. Il y a une petite reprise, mais il s'agit quasi uniquement soit de petits navires qui prennent le risque, soit de navires pétroliers plus ou moins proches de ce qu'on appelle la dark fleet russe, mais les gros porte-conteneurs, qui sont ceux qui payent le plus cher, les navires qui coûtent très cher à assurer, pour le moment, ça n'est pas à l'ordre du jour.
Jacques de Reclès avec Aurore Lartigue dans l'actualité politique en France, qui, pour prendre la présidence du parti de droite Les Républicains, c'est aujourd'hui l'ultime jour de campagne pour les deux candidats, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Les plus de 120 000 adhérents les départageront dimanche. Laurent Wauquiez, patron des députés LR, sera ce soir à Lyon. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lui effectue sa dernière réunion à Nîmes. Enfin, en Slovénie, une statue de la première dame des États-Unis dérobée dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Le monument, grandeur nature, à l'effigie de Melania Trump, a disparu à Svenica, sa ville natale. Un nouvel incident pour une œuvre qui, depuis sa création, fait polémique en Schwabre.
Cette fois, l'artiste américain Brad Downey l'avait pourtant construite en bronze, solidement bétonnée sur un tronc d'arbre. Il voulait lui éviter le sort de la précédente version, en bois, incendiée en 2020, mais rien n'y fait. La statue de Melania Trump a été sciée au niveau des chevilles et emportée dans la nuit. La police slovène a ouvert une enquête pour retrouver les malfaiteurs et leur butin. Une courte vie agitée pour ce petit monument décrié depuis sa création en 2020. Une statue de la First Lady campée dans sa robe bleu ciel qui n'était pas du goût d'une majorité des habitants. Certains la surnomment mais même la Schtroumpfette. Mais pour son créateur, Brad Downey, l'œuvre a été vandalisée en raison, je cite, du retour de Trump à la Maison Blanche. Pourtant, selon lui, il s'agissait d'une œuvre de contre-propagande. Il voulait rappeler que l'épouse du président américain, hostile à l'immigration, est elle-même une immigrée. Melania Trump a en effet quitté la Slovénie pour les États-Unis en 1990. Reste à savoir si l'artiste tentera une troisième version de la statue, une œuvre qui aura en tout cas eu le mérite de susciter le débat, politique comme esthétique.
C'était Ange Fabre, ainsi se referme le journal. Mais l'information continue avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure.
RFI, la France à midi.
Nous évoquons d'abord une plainte qui vient secouer l'armée française. Quatre anciens du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine dénoncent des violences, des menaces et un harcèlement moral de la part de leurs supérieurs pouvant aller jusqu'à une mise en danger de la vie d'autrui. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Anne.
Cette affaire pourrait ternir l'image de l'armée de terre à un moment délicat où l'institution cherche à recruter de jeunes Français dans ce que l'on appelle la réserve opérationnelle.
Oui, d'où la réaction immédiate de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui a rapidement déclaré prendre très au sérieux ces accusations. Il rappelle la politique de tolérance zéro vis-à-vis de ces pratiques. Le ministère se dit également déterminé à faire toute la lumière sur les faits dénoncés et l'armée de terre a décidé d'initier ce que l'on appelle une enquête de commandement. Thibault Lafourcade, l'avocat des quatre anciens parachutistes qui ont porté plainte, parle de brimades, de violences morales, mais aussi de violences physiques. En fait, les cadres d'une section auraient agi ainsi, estimant qu'il s'agissait de mauvais soldats et ils ne souhaitaient pas qu'ils restent au sein de l'armée. Cette affaire, désormais judiciaire, génère en tout cas de très vives réactions au sein de l'institution militaire où le respect des règlements et de la loi étant un principe intangible, Anne, nous avons pu joindre le général Frédéric Danigo, patron de la 11e brigade parachutiste dont dépend le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine de Castres. Voici sa réaction.
À l'origine de ces allégations, on a quatre plaintes d'anciens parachutistes du régiment qui mettent en cause des cadres de leur section. Ils leur reprochent des comportements qui sont, s'ils sont avérés, absolument inacceptables et intolérables dans notre armée de terre. Nous venons de prendre connaissance des faits, donc on est en train de les analyser. Et on a, comme à chaque fois, lorsque des faits de telle nature sont portés à notre connaissance, initié une enquête de commandement. Donc on est en cours d'analyse de ces éléments.
On parle de harcèlement moral et de violence physique.
Effectivement, c'est la nature des faits qui sont reprochés. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que c'est systémique ou que c'est très circonscrit ?
Alors, ce n'est absolument pas systémique, puisque de tels agissements sont bien évidemment contraires à toutes les valeurs que porte l'armée de terre. À ce stade, de ce dont j'ai pu prendre connaissance, il s'agirait de faits qui ont eu lieu entre 2021 et 2023 et qui sont circonscrits à une section. Une section, c'est environ 30 hommes. Alors, pour le 8e RPMA, c'est la diffusion de ces faits est évidemment extrêmement choquant. Et nous n'avions pas connaissance de tels agissements. Première action, c'est de considérer avec gravité et fermeté ces faits, être complètement déterminé à faire le plus rapidement possible la lumière, vérifier leur matérialité et puis, le cas échéant, sanctionner avec fermeté.
Voilà, je rappelle que le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, Anne, c'est une unité d'élite. Cette affaire est donc à même de ternir l'image des armées qui, je le rappelle, chaque année doivent recruter plusieurs milliers d'hommes.
Franck Alexandre.
RFI Midi.
C'est l'heure de notre entretien. Véronique Rigolet, vous recevez aujourd'hui Francis Brochet en studio avec nous, journaliste pour le groupe EBRA qui réunit plusieurs quotidiens régionaux comme l'Est Républicain ou les Dernières Nouvelles d'Alsace et auteur du livre « Quand le parisianisme écrase la France » paru aux éditions de l'Aube.
Bonjour Francis Brochet.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI pour parler de ces inégalités qui ne cessent de se creuser en France entre Paris et la province, entre la capitale lumière qui concentre tous les pouvoirs, toutes les richesses et les territoires. Priez quant à eux, écrivez-vous, d'obéir en silence. C'est ce parisianisme qui écrase la France, titre de votre ouvrage. Comment vous expliquez, Francis Brochet, d'ailleurs, ce monopole absolu de Paris, ce centralisme à la française, hein, quasi unique au monde et qui laisse le reste de la France, 96% des territoires sous-dotés, quasi marginalisés?
Écoutez, il y a évidemment le legs de l'histoire, faut pas le nier, dans tous les domaines, en particulier le domaine politique. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Ce que j'essaye de montrer, c'est que au lieu de faire évoluer les choses, de faire que l'ensemble de la France se développe, on a pensé à un moment qu'il fallait développer que les plus riches pour être dans la compétition mondiale, internationale. Et c'est une mentalité qui n'est pas qu'économique. C'est une mentalité qu'on retrouve aussi dans les milieux culturels, voire médiatiques. Et je pense que c'est bien le problème, c'est que on justifie par l'histoire quelque chose que l'on perpétue et qu'on aggrave, parce que sur les dernières années, ça s'est aggravé.
Paris qui commande, Paris qui décide et qui finance, eh bien surtout Paris hein, dans votre ouvrage, parmi les exemples les plus édifiants de cette inégalité, il y a le domaine culturel. L'État, par exemple, dépense 195 euros par habitant en Île-de-France contre 24 euros seulement en province.
Et je peux vous donner deux chiffres, pires. C'est que si l'on s'en tient à Paris, parce qu'il y a une grande différence entre Paris et l'Île-de-France, si l'on s'en tient à Paris, la différence est de 800 euros par habitant, par Parisien, et 27 euros chez moi dans le Doubs. Comment voulez-vous que les personnes du Doubs et de Paris parlent de la même chose quand ils parlent de culture? C'est bien le problème, c'est qu'à un moment, les Parisiens et les Français, les autres Français si j'ose dire, les provinciaux, ne parlent plus la même langue. D'ailleurs, on le voit dans la culture, les cinéastes, les distributeurs de films vous expliquent qu'on ne distribue pas les films de la même manière à Paris et en province. D'ailleurs, toutes les publications professionnelles font la différence. Vous avez des succès en province et des succès à Paris.
Et quitte à également gommer les accents du terroir, hein, ça a été le cas pour un chanteur très connu, Francis Cabrel.
Absolument,
Quand il est monté à Paris, comme on dit.
Francis Cabrel enregistre Petite Marie, qui est son premier grand succès. Il l'enregistre avec son accent et le producteur passe derrière et gomme l'accent. Et Francis Cabrel a attendu quelques années d'être suffisamment connu et avoir suffisamment d'autorité pour pouvoir réenregistrer avec son accent. Moi, j'avoue que je suis désolé, là. Vous voyez, je vous parle, j'ai plus mon accent de Montbéliard. Mais je retourne trois jours à Montbéliard, je le retrouve.
Bon, vous
je
pouvez le retrouver
et j'en suis ravi.
Vous pouvez le retrouver sur cette antenne, hein,
Très bien.
Si ça vous chante. Cette hyper-centralisation, c'est un état de fait millénaire, hein, on va pas remonter à la cour de Louis XIV, mais c'est entretenu, expliquez-vous, par l'action, justement, des élites économiques, politiques, culturelles, toutes biberonnées au même endroit, dans les mêmes grandes écoles parisiennes de Sciences Po à l'ENA, et c'est ça le problème.
C'est ça le problème, ils se retrouvent tous dans ce club qu'on appelle Le Siècle, qui est un club dont le siège est tout près de l'Élysée. Et ça pose un problème majeur dans l'économie française, dans la politique française. Ça nous empêche d'avoir ce qui est toujours un signe de richesse, la diversité. Ça crée aussi des conflits d'intérêts entre nous, parce que on ne connaît pas un président de très grande entreprise française qui ne soit pas passé par un cabinet ministériel. Et inversement.
Ils se sont tous connus à l'ENA à un moment ou à un autre.
Ils se connaissent aussi à l'ENA et bien sûr, on va me dire, l'ENA est à Strasbourg maintenant. Ah. Mais déjà, c'était une bataille absolument incroyable pour emmener l'ENA de Paris à Strasbourg.
Certains ont dénoncé un exil forcé. Hein.
Absolument. Écoutez, je suis désolé d'employer ce terme, mais il a été employé. Ils étaient déportés à l'Est.
Oui, je n'osais pas le reprendre.
Mais si, c'est terrifiant. Et maintenant, les étudiants sont à Strasbourg. Mais vous savez qu'au début, les cours étaient organisés pour que les professeurs puissent prendre l'avion. Donc, on regardait les horaires des avions et on mettait les cours pour qu'ils puissent prendre l'avion le matin et le prendre dans l'autre sens le soir.
Cette déconnexion des élites qui impacte, qui imprime en France, est-ce que c'est de cela qu'est née également la révolte des Gilets jaunes quand notre gouvernement n'a pas compris quel pouvait être le problème de limiter la vitesse ou bien d'augmenter la taxe carbone?
Absolument, je ne dirais pas que c'est l'unique raison, bien évidemment, mais de la même manière que nous disions que les provinciaux et les parisiens ne parlent pas la même langue, ils ne vivent pas la même vie. Ils ne la vivent pas en termes de revenus, ils ne la vivent pas au quotidien. Par exemple, dans le déplacement entre leur domicile et leur travail, vous avez environ 70% des Parisiens qui prennent un transport en commun. Chez moi, ça doit tomber à 10%. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce ne sont que les Parisiens à l'intérieur du périphérique. Dès que vous sortez du périphérique, que vous allez dans un des départements alentours de l'Île-de-France, la proportion, c'est plus 70%, c'est 50%, c'est 30%. Mmh. De la même manière, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, le pourcentage est bien inférieur. Ça veut dire qu'il y a vraiment une spécificité de manière de vivre parisienne.
Paris intramuros, hein, dès le périph' franchi, c'est déjà la province pour...
Vu de Paris, c'est même les territoires. Les territoires, c'est terrible comme mot. Les territoires, vous savez, au pluriel, toujours. Moi, quand j'entends le mot territoire, j'entends réserve d'Indiens. Et je remarque, c'est plus techno, mais qu'on a parlé de territoire au pluriel quand on a cessé de parler d'aménagement du territoire au singulier, c'est-à-dire d'aménagement de la France. Là, maintenant, on a sur une tête d'épingle là, quelques intelligences qui se disent comment on va faire pour que ces braves gens se développent.
Alors après la révolte des Gilets jaunes, est-ce qu'on peut craindre une nouvelle révolte? Vous dites dans votre livre que, bon, par exemple, la disparition des services publics dans les territoires fait le jeu aujourd'hui des extrêmes, hein, sur le plan politique. C'est, dites-vous, le carburant électoral du Rassemblement national.
Alors, en l'occurrence, je cite Jérôme Fourquet, mais je signe évidemment puisque je le cite. Je dirais qu'il y a un début de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'entre Gabriel Attal, dont l'ancrage est de 5 km² dans le 6e arrondissement, et Michel Barnier, qui à la fois cet ancrage en province et en Europe, et François Bayrou, il y a un changement complet. Donc, début de prise de conscience. Mais il est vrai que le risque, et on le voit dès aujourd'hui, c'est que, disons, les forces les plus radicales, les plus extrémistes, s'emparent de cette contestation de l'élite parisienne dans une forme de provincialisme réactionnaire. Moi, je veux pas jouer le match province contre Paris ou Paris contre province. Mais certains veulent le jouer.
Les extrêmes.
Mais on le voit où? On le voit par exemple en Hongrie. Vous avez Monsieur Orban qui se fait élire par l'ensemble des provinces ou régions hongroises et qui se contrefiche de Budapest, qui est évidemment le repère des gauchistes, des woke. Il sait qu'il ne gagnera pas à Budapest et il s'en fiche.
Est-ce qu'il y a le risque d'une trumpisation du pays?
Alors, trumpisation, si vous voulez, il y a
parce que vous citez l'exemple également de Donald Trump.
Oui, parce que Donald Trump est évidemment dans cette diatribe contre les élites de la capitale. C'est un vieux thème américain de protester contre Washington. Ce qui est sûr, c'est que en contestant les élites, on conteste les institutions. Et je rappelle, c'est pour ça que j'espère que le livre n'est pas lu comme une démarche populiste, ou je veux vraiment pas que ce le soit. Mais on a besoin d'élites. Il faut des élites. La démocratie a besoin d'élites. Sauf que ces élites doivent être mobiles.
Et se renouveler,
pas toutes nées au même endroit, formées au même endroit, se connaissant les unes les autres.
Face à tous ces risques, vous écrivez, bien, il devient urgent de changer le logiciel. Vous plaidez pour une France plus équilibrée, avec une répartition plus juste des pouvoirs, des opportunités. C'est un vaste programme, vous le concédez, c'est un rêve également.
Écoutez, moi je rentre pas dans comment on pourrait faire de manière, j'allais dire, technique, décentralisation, etc. Je crois que déjà faut faire le constat. Et ce que j'essaye de décrire dans ce livre, on en est plus ou moins conscient. Hein, les provinciaux le savent plus ou moins qu'ils sont pas dans la même catégorie que les Parisiens. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est important, à quel point c'est grave. Et s'il y avait déjà prise de conscience, ça m'irait très bien.
Voilà, plaidoyer pour une France plus harmonieuse. Merci Francis Brochet. Comment le parisianisme écrase la France vient de paraître aux éditions de l'Aube. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Ce 16 mai est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et cette année, en France, les autorités ont choisi d'orienter la campagne de prévention vers les jeunes. Une ligne d'écoute leur est dédiée. En cas de problème, il faut appeler de France le 3018 pour éviter des souffrances comme celles qu'a vécu le comédien Régis Nkissi quand il était au lycée. Il raconte son parcours dans le livre « Comment Marilyn m'a sauvé la vie » publié il y a quelques semaines. Il raconte aussi au micro d'Amélie Beaucourt.
Là, on est devant le collège dans lequel j'ai fait ma scolarité, au collège Claude Debussy.
C'est la première fois depuis 10 ans que Régis Nkissi remet les pieds devant son établissement scolaire, là où le cauchemar a commencé.
Mon quotidien au collège était fait d'insultes, de moqueries, de regards. Et en fait, c'est ça qui fait le plus mal, c'est les regards. On sent qu'on n'est pas le bienvenu, qu'on n'est pas accepté.
Les insultes homophobes se mettent à pleuvoir. L'adolescent soigné paye une passion pour la mode considérée comme suspecte aux yeux de ses camarades.
Je renvoyais une image de quelqu'un de très à l'aise, très confiant, bien dans sa peau, qui arrive au collège avec une veste en fourrure et un nœud papillon. Je suis congolais, donc la mode coule dans mon sang, je peux rien y faire. Donc mon amour des vêtements vient de ces sapeurs qui m'ont éduqué, quoi, qui ont fait mon éducation. Il y a un truc qui fait que... ça clashait avec le côté jogging basket et ça mettait ces personnes mal à l'aise. Chaque cantine, je mangeais des fois, pratiquement 80% du temps, j'étais tout seul.
Cette solitude, il la raconte à 25 ans dans un livre qui s'ouvre sur ces mots. C'est décidé, ce soir, je vais mourir. J'ai 14 ans et je vais mettre fin à mes jours. Une tentative de suicide dont il n'avait jamais parlé à personne. S'il a couché son histoire sur le papier, c'est pour adresser un message à ceux qui vivent la même chose.
Vous n'êtes pas seul, ça va passer. Ça fait mal maintenant, ça va faire mal après aussi, mais on s'en remet. Le méchant nuage gris finit toujours par passer. Toujours s'accrocher pour ouvrir les rideaux et voir que, en fait, le soleil est là, quoi.
C'est aussi avec ce récit qu'il a choisi de révéler à sa famille son homosexualité.
Moi, j'ai grandi dans une famille... avec beaucoup d'amour, mais quand même il y a ce pan de la religion où même moi, comme je suis quelqu'un de croyant, j'ai eu cet endroit de... Il y a des moments avec Dieu où j'ai dans une grande prière de « Mais attends, mais pourquoi Dieu, si tu choisis tes enfants, pourquoi tu m'as mis moi l'homosexualité dans ce truc-là » Et en fait, Dieu n'est qu'amour, mais est-ce que eux vont l'entendre ?
Aujourd'hui, Régis Nkissi, star montante du cinéma français, s'est débarrassé du masque qui l'a longtemps fait suffoquer. Son visage, le vrai, est maintenant familier des passants qui s'arrêtent pour le complimenter.
Ça va et toi ?
Oh là là !
Ma star !
J'ai envie de te craquer, mais moi, t'en fais.
Reportage d'Amélie Beaucourt, à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Pour rester avec nous, on se retrouve dans une minute pour l'actualité en Europe. A tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Cher Ibrahim. Migno Crusaders.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Les bronzes royaux d'Angkor, un art du divin. C'est une exposition événement au musée Guimet avec un chef-d'œuvre de l'art khmer, tout juste restauré en France, le grand Vishnu couché du sanctuaire du Mébon. Les commissaires de l'exposition seront avec nous pour en parler.
sur le Pont des Arts
avec la compagnie Corsair
du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.